J'aimerais prier. Seigneur, merci encore pour ta résurrection qui nous permet maintenant d'avoir cette espérance vivante. Merci encore pour ce moment aussi nous pouvons écouter, où nous pouvons écouter, édifier par ta parole. Seigneur, ouvre notre cœur, notre entendement. Non seulement, Seigneur, tu nous parles dans notre cœur, mais aussi que nous puissions aussi porter du fruit à travers aussi cette parole qui peut fructifier notre vie, notre manière de vivre. Merci encore de toucher aussi. Merci encore pour tout ce que tu as déjà accompli pour chacun d'entre nous. Nous te louons pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Jésus est ressuscité. Oui. Amen. Oui. Le Seigneur, il y a plus de 2000 ans, est mort sur la croix et il est ressuscité. Pendant sa vie sur cette terre, il avait choisi 12 disciples pour qu'ils puissent aussi suivre, être enseignés par lui. Et ces 12 disciples ont vécu avec lui, ils ont mangé, ils ont vu les miracles que Jésus accomplissait. Eux-mêmes, ils pouvaient accomplir au nom de Jésus plein de miracles. Et puis, après avoir vécu toute cette grâce, ils n'avaient pas vraiment compris le message de Jésus qui leur disait maintes fois, écoutez mes amis, écoutez mes disciples, je vais bientôt mourir. Mais je serai ressuscité au troisième jour. Il a répété ce message maintes fois, mais les disciples n'avaient pas compris ce message. D'ailleurs, quand les disciples et Jésus entrent en Jérusalem, au bout de 3 ans, encore une fois, pour célébrer la Pâque juive, ils sont célébrés, ils sont accueillis, acclamés par tout le peuple d'Israël qui lui lançait cette cri « Hosanna, Hosanna, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous ». Cette acclamation prouvait bien que Jésus était accueilli, même à grandes ouvertes par les Israélites. Mais cela a donné aussi quelques idées aux disciples en se disant, ah voilà, notre Seigneur Jésus, après avoir accompli tant de miracles, maintenant on a l'impression qu'il va faire quelque chose, c'est-à-dire peut-être renverser la politique, chasser les Romains qui sont sur place, peut-être retrouver notre indépendance en tant que le pays d'Israël. Voilà ce qu'ils attendaient. C'est pour ça d'ailleurs que deux disciples, Jean et Jacques, pensaient qu'ils allaient peut-être avoir une place importante. Et d'ailleurs, c'est leur mère qui intervient auprès de Jésus en disant que, « Cher maître, est-ce que vous pourriez, lorsque vous aurez le pouvoir, la puissance, est-ce que vous pourriez mettre mes deux fils, Jean et Jacques, sur ta droite, sur ta gauche ?» C'est comme si, « Est-ce que tu peux mettre mes deux fils ?» Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Le premier ministre et l'autre ministre de la Défense, ah, ce serait super. Et Jésus lui répond en disant, mais vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Là, il parle de la croix qui est difficile à porter. Et ils disent oui, sans comprendre le vrai message de Jésus. Les 10 autres disciples, en voyant cette scène, qu'est-ce qu'ils vont réagir? S'ils avaient bien compris le message, ils auraient dit, mais non, vous n'avez pas très bien compris le message de Jésus. Jésus va bientôt mourir et ressusciter au bout de 3e jour. Mais non, au lieu de dire cela, ils étaient indignés. Indignés, voir comment ça tu vas prendre la place de droite et gauche de Jésus. C'est moi? C'est nous? Et nous alors? Ils n'avaient rien compris, eux non plus. Il y avait une certaine lutte de pouvoir, alors que Jésus n'avait même pas encore pris le pouvoir en tant qu'homme, sur cette terre. Jésus, en voyant cette scène, leur répond dans Matthieu chapitre 20, verset 26, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Là, il répète encore qu'il va mourir. Là, il répète encore qu'il n'est pas venu pour la gloire terrestre. Mais les disciples, avant la résurrection, avant la mort et la résurrection, ils n'avaient rien compris. D'ailleurs, parmi les disciples favoris, il n'y avait pas que Jean et Jacques. Souvent, Jésus prenait trois disciples, et parmi eux, il y avait bien sûr Pierre, son disciple favori. Et je pense que je vous avais déjà dit il y a quelques semaines en disant que oui, Pierre avait fait une grande confession devant le Seigneur en disant que « Seigneur Jésus, quand Jésus lui demande qui je suis, Seigneur Jésus, tu es le Fils de Dieu, le Christ, le Messie qui devait venir et qui est venu. » Il a été félicité par le Seigneur lui-même, mais nous savons aussi que lorsque Jésus reparle encore une fois, pour une énième fois, sa mort et sa résurrection, il l'appelle et il le gronde, son maître, en disant « mais non, tu ne dois pas dire ça ». Ça veut dire que même Pierre, il n'avait pas compris le vrai message de Jésus qui disait que je dois mourir en fait pour sauver plusieurs personnes, même pour vraiment sauver le monde. Ce Pierre qui n'avait pas compris, avant de voir Jésus ressuscité, vous voyez bien qu'il avait pris peur lorsque Jésus a été attrapé par les soldats et qu'il a pris sa fuite. Non seulement il a pris sa fuite, mais il a dû renier trois fois Jésus-Christ, en le maudissant même. Les disciples qui ont connu leur vie pendant 3 ans avec Jésus, ils n'avaient pas vraiment compris son vrai message. Oui, ils voient Jésus crucifié. Oui, ils se sont enfuis, mais ils entendent la mort, la nouvelle de la mort de Jésus. Et là, ils sont dans le désespoir total. Après la mort de Jésus, ils étaient tous dans la confusion. Ils sont retournés chez eux. Ils ont repris leur métier d'avant. Tout ce qu'ils ont pu expérimenter, l'enseignement qu'ils ont reçu, ne servait à rien. Mais au moment où Jésus est ressuscité, là, ils changent d'avis. Ou plutôt, ils sont de nouveau dans l'espoir. Ils commencent à comprendre le vrai message de Jésus. Oui, il est venu sur cette terre pour mourir à la croix. Pourquoi ? Pour nous sauver, pour la purification de tous nos péchés. Pendant 40 jours, Jésus reste encore avec eux pour les encourager, pour les fortifier. Il a prouvé maintes fois qu'il était encore vivant et qu'il n'était rien d'un esprit, mais vraiment, il était réellement là. Il pouvait sauf qu'apparaître et disparaître à volonté et se déplacer d'une ville à une autre instantanément. Voilà, donc il découvre Jésus. Et après la Pentecôte, après que l'Esprit de Dieu soit complètement rempli en eux, là, il commence à agir, à comprendre, etc. Voilà donc en ce qui concerne les 12 disciples. J'en parle même pas, Judas Iscariot. Vous savez ce qu'il a fait. J'aimerais vous parler encore un autre personnage, Paul, l'apôtre Paul, qui n'avait pas rencontré Jésus. Il n'a pas connu Jésus pendant son ministère. Paul était un juif, un pharisien, convaincu. Et pour lui, lorsqu'il a entendu que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il se définissait comme Fils de Dieu, il l'a pris comme un blasphème, un sacrilège contre Dieu. Et c'est pour ça qu'il était normal de persécuter les chrétiens qui croyaient à cette nouvelle. Il était en droit légitime même de les persécuter, tous ces gens qui sont dans l'erreur. Pour lui, les chrétiens, le christianisme était une secte, une hérésie de judaïsme. Mais un jour qu'il était prêt à persécuter les chrétiens, sur le chemin de Damas, il rencontre personnellement Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'il devient un vrai témoin de Jésus. Et c'est comme ça qu'il commence à évangéliser. Il a complètement changé d'avis. Il a complètement changé de vie. Il y a avant la rencontre avec Jésus et après la rencontre avec Jésus ressuscité. Avant la rencontre, qui était Paul ? C'était un Hébreu. Comme tous les Hébreux, il a été circoncis au bout de son 8e jour. Et il est né d'un tribu Benjamin. Ça, c'est une tribu. Il était né d'une tribu Benjamin, alors ? Benjamin, quand même, oui, Benjamin. Oui. Vous savez, la tribu Benjamin était une tribu qui était adulée quand même. Pourquoi ? Parce que dans cette tribu est né le premier roi Saul. Hein? C'est pour ça d'ailleurs que le père de Paul a donné le nom, le premier roi Saul, Saül. Ce Paul avait comme maître Gamaliel, le plus grand maître de l'époque, le plus grand théologien de l'époque. En plus, il avait la citoyenneté romaine. Ça veut dire qu'il pouvait tout faire. Il avait plein de privilèges. Donc, en plus, il était intelligent. Il connaissait bien la Bible. Et tout cela permettait de réussir sa vie. Mais après avoir rencontré Jésus, pour lui, il dit dans Philippiens 3:7, mais toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Philippiens 3:7. En fait, ce mot perte, souvent j'ai essayé de voir dans les différentes versions en français, c'est traduit aussi une perte dans toutes les traductions, ce qui était un peu bizarre pour moi parce que dans ma Bible coréenne, c'est marqué... Alors, une déjection, comme si c'était quelque chose qui ne... comme une merde, mais vraiment, pour dire... Je ne sais pas si j'ai... Entre parenthèses, et pour dire que, oui, toutes ces choses qui étaient pour moi un gain, il ne les considérait plus. Avant, c'était important pour la réussite de sa vie. Mais maintenant qu'il a rencontré le Christ, il connaissait le plus important. Oui, le Christ ressuscité lui a permis de changer de vie. Le Christ ressuscité lui a permis même d'endurer les souffrances. Au niveau des souffrances, qui a connu plus de souffrances que lui ? Dans 2 Corinthiens 11, il est dit, au verset 23, voilà, je le suis plus encore par des travaux, par des coups, encore par des emprisonnements, souvent en danger de mort, pour dire qu'il était vraiment, il a connu des persécutions, il a connu des épreuves. 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins un. 5 fois. Vous savez, on battait les gens 5 fois. Pourquoi 40 moins un? Comment? Pour ne pas le tuer, oui, c'est un simple, pour ne pas le tuer, pour dire que vraiment, c'était une punition très sévère, en fait. Hein. Mais il a reçu 5 fois, c'est cool. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. Les gens avaient lancé des pierres et à un moment donné, ils pensaient que Paul était mort, c'est pour ça qu'on l'avait mis en dehors de la ville. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Voilà, tout seul. Imaginez. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens. Non seulement il a été persécuté par ses propres peuples, par son peuple, mais aussi par les païens. En péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, non seulement à l'extérieur de l'Église, mais aussi à l'intérieur de l'Église, des faux frères le persécutaient. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Quand je vois toutes ces choses que Paul a dû subir, je me dis pourquoi il a choisi ça au lieu d'un chemin tranquille où il aurait pu réussir, gagner beaucoup d'argent, avoir de l'estime de son peuple. Mais non, il a considéré toutes ces choses comme une perte. Pourquoi ? Parce que pour lui, le plus important, c'était le Christ ressuscité. Le Christ ressuscité. C'est pour ça qu'il était prêt à subir toutes ces persécutions. Dans Romains 8, 18, il est dit que « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Par rapport à la gloire que je vais connaître, ce n'est rien. Ce n'est rien. Oui, d'accord, je suis battu, je suis persécuté. Parfois, j'ai cru que j'allais mourir à cause du Christ, mais ça vaut la peine. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce qu'il avait la foi inébranlable. Il était prêt à obéir à tout, à accepter même de tout. C'est pour ça que pour lui, nous savons du reste que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il le croyait, Dieu réconfère cette parole. Il savait que toutes ces choses lui permettaient aussi d'être façonné de plus en plus pour ressembler à Dieu. Quand il a été éclairé quand il a eu cette rencontre avec le Seigneur Jésus ressuscité, il commence à évangéliser. Et finalement, Dieu lui dit, écoute, va à Tarse et pendant 13 ans, tu vas étudier ta parole. Je pense que pendant ces 13 ans, il a vraiment étudié, approfondi l'Ancien Testament par rapport à ce que Jésus avait déjà accompli. Pendant ces 13 ans, il a aussi dû expérimenter, peut-être en montant jusqu'au troisième ciel. Vous savez qu'il a expérimenté plein de choses, mais qu'il ne décrit pas dans toute la Bible. En tout cas, il a approfondi sa connaissance. Il a vraiment cultivé cette intimité avec le Seigneur. Et puis un jour, quand il était aussi disposé à le servir, c'est pour ça que quand Barnabas l'appelle à l'église d'Antioche, il dit « Ok, je viens ». Peut-être que pendant ces 13 ans où il était tout seul en train d'étudier, les gens de sa ville natale auraient pu avoir une pensée un peu négative vis-à-vis de lui en se disant « Mais lui qui avait tout pour réussir, mais qu'est-ce qu'il fait là ?» hein? Il pourrait aller encore à Jérusalem, devenir quelqu'un de très célèbre avec son intelligence, avec tous ses privilèges. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ici ? En fait, finalement, c'est un raté. C'est un raté. Il aurait pu être ce genre de regard de la part des autres. Mais ça ne lui faisait rien du tout, ce regard. Pourquoi ? Parce qu'il savait que ce qu'il faisait était le plus important. Et c'est comme ça qu'il devenait de plus en plus mature. Il approfondissait sa connaissance en Dieu. En tout cas, quand Barnabas se rend à Tarse pour chercher Saul, l'ayant au verset Actes chapitre 11, verset 26, il est écrit, « L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Voilà donc que Paul est appelé comme co-responsable à l'église d'Antioche. Et c'est ainsi que tout empire romain change, ou je dirais le monde entier change. C'est vrai qu'il a été appelé comme apôtre auprès des païens, et il fait plein de voyages missionnaires pour être des témoins fidèles, pour des témoins fidèles. J'aimerais encore partager un témoignage d'un chrétien égyptien. Un chrétien d'Égypte était sur une plage avec son épouse. Vous savez qu'en Égypte, il y a à peu près 90% de musulmans. Il y a à peu près 10% de chrétiens, mais ils sont persécutés. Souvent, on entend parler des crimes terroristes où justement les musulmans extrémistes viennent s'exploser hein, en plein culte de l'Église. Pour voilà. En tout cas, ils vivent des moments difficiles. Et donc, ce chrétien d'Égypte était sur une plage avec son épouse, et c'était durant une période peu fréquentée par les vacanciers. Si vous recevez des fascicules de portes ouvertes, vous connaîtrez cette histoire. Ils étaient bien tranquilles. Et puis, ils voient arriver une famille de salafistes s'installer auprès d'eux, tout près d'eux. Vous savez ce que c'est les salafistes hein? Les salafistes, c'est un mouvement religieux de l'islam sunnite qui revendique un retour aux pratiques en vigueur dans la communauté musulmane. Voilà, et faire le plus ressemblant possible par rapport au prophète Mahomet. Et comme c'est une famille salafiste, la femme était entièrement voilée. Le salafiste porte une barbe comme Mohamed et Mahomet. Et le chrétien, donc, voilà, normalement, il y a quand même 10% de chrétiens dans ce pays. Donc, même si ils sont souvent persécutés par les musulmans extrémistes, c'est quand même le christianisme est une religion que l'État reconnaît. Donc, ils peuvent quand même avoir leurs pratiques, etc. Et puis, ils sont de droit de vivre comme un vrai chrétien, pas forcément en se voilant. Le chrétien, donc, se lève alors pour aller se baigner. Et il est suivi par le salafiste. Alors là, qu'est-ce que vous penserez à ce moment-là? Vous êtes suivi par un salafiste avec un barbu. Et puis, dans l'eau, ce dernier se rapproche de lui. Il doit avoir peur. Le chrétien commence à avoir peur. Que va-t-il lui arriver? Le salafiste lui demande « Est-ce que Jésus est vraiment ressuscité ?» Le chrétien est saisi par le Saint-Esprit et il répond avec conviction « Oui, il est ressuscité. Oui, il est ressuscité. Oui, il est ressuscité. » Il le répète à trois reprises. Le salafiste ouvre des yeux étonnés et lui pose plein de questions. On ne sait pas quelles questions qu'il a dû poser, hein, parce que l'écriture, enfin l'article ne nous définit pas. Mais en tout cas, il a dû poser plein de questions sur Jésus, qu'il a dû répondre. Et puis, le chrétien lui annonce, en tout cas, l'évangile, la vérité. Et le lendemain, il se retrouve sur la plage. Le salafiste lui raconte comment Dieu l'a guéri d'une maladie grave et il se convertit. Voilà une belle histoire. C'est une belle histoire, c'est vrai. Mais c'est pas tout. Vous savez bien que Paul, lorsqu'il a été éclairé par le Seigneur, c'était aussi une belle histoire. Mais après cette belle histoire, il y a aussi plein d'épreuves qui l'attendaient. J'imagine bien aussi pour ce salafiste, repenti, sa vie d'après. Parce que changer d'identité, c'est pas possible. Changer de carte d'identité, vous savez que sur la carte d'identité, il y a marqué « tu es musulman, musulman, quoi. Tu es chrétien, tu es chrétien. » Mais lorsque vous vous convertissez, vous ne pouvez pas changer. Hein? Ça veut dire qu'il y a encore des contraintes. Il y a plein de choses qui... Voilà. En tout cas, après avoir rencontré ce Jésus ressuscité, il y a eu un miracle. Le Seigneur l'a ouvert son cœur. Oui, Jésus est venu sur cette terre. Il a accepté la mort. Et après 3 jours, après le troisième jour, il a été ressuscité. Et cette résurrection l'a permis en tout cas d'appeler plein de monde comme ce salafiste. Et de même, il nous appelle encore une fois pour que nous puissions le rencontrer personnellement. Oui, Jésus a subi ce sacrifice par amour pour nous, pour le pardon des péchés, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous aime. Jésus-Christ, oui, est avec nous encore ce matin, dans le monde entier, appelant ses enfants à revenir vers lui, à le rencontrer, à ouvrir leur cœur, comme ce salafiste qui a donné son cœur. De même, voilà, cette rencontre a permis aux disciples de changer complètement, à Paul de changer complètement. Parfois, un certain chrétien, ils étaient prêts à subir des choses, des difficultés, des douleurs. Le disciple l'un des responsables de l'Église, Timothée, le protégé de Paul, un jour, on lui demande de se circoncire parce qu'il était appelé aussi à évangéliser auprès des Juifs. Et pour évangéliser auprès des Juifs, lui qui était moitié juif, il fallait quand même qu'il passe par là. Se faire circoncire à l'âge d'adulte, il avait peut-être à l'époque à peu près 18 ans. Et je ne pense pas que l'anesthésie était aussi développée qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, Dominique? Je ne sais pas. Hein. il décide de suivre ce chemin pour les autres. Parce que se faire circoncire n'entrait pas en jeu pour son propre salut, mais il décide de le faire aussi. Comme Dieu à marcher sur ce chemin de sacrifice. Oui, Jésus est ressuscité et il a changé tellement de cœurs, il a transformé les vies. Ce matin, vraiment, je vous invite à ouvrir encore notre entendement et réjouissons-nous, oui, ce Seigneur Jésus est ressuscité et il est encore présent. Toutes ses promesses se sont réalisées et réalisera encore dans l'avenir. Que notre confiance grandisse davantage en lui faisant confiance. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur. Car malgré l'incompréhension des disciples, tu as été patient. Et au moment où tu leur as accordé, enfin tu t'es ressuscité, lorsque tu es ressuscité et que tu as accordé ton Esprit Saint dans leur cœur, ils avaient compris, ils ont été transformés, et que non seulement ils ont été transformés, mais ils ont su ce qui était le plus important. Ils ont pu avoir l'espérance vivante pour pouvoir aussi endurer parfois des souffrances. Seigneur, oui, la vie peut être difficile, on doit parfois traverser, subir des persécutions à cause de notre identité chrétienne ou parce que nous voulons vivre dans la vérité. Mais Seigneur, oui, accompagne-nous à chaque fois et aide-nous à avoir cette espérance vivante qui nous permet d'avancer, de marcher vers cette lumière qui nous attend. Seigneur, apaise notre cœur et donne-nous vraiment, remplis-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.